Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, 1er mai, journée internationale du travail. Dans ce journal, nous ferons un petit point pour voir comment cette journée a été vécue en République démocratique du Congo. Le chef de la MONUSCO, reçu hier au Parlement de la RDC, James Swan, a parlé d'une réception constructive et a loué le rôle incontournable de cette institution dans la démocratie et la consolidation de la paix. Réduire l'emprise agricole pour freiner la déforestation, c'est possible et c'est ce que vient de démontrer le champ école paysan dénommé Kutakanikuwaza. Et entendez par là vouloir ses pouvoirs en récoltant une tonne de bananes sur seulement 900 mètres carrés d'espace à Yanongé. Nous recevons un expert en agroforesterie dans un instant pour apprendre un peu plus sur cette astuce aussi louable. Bonsoir une nouvelle fois. La journée internationale du travail, c'est aujourd'hui partout dans le monde entier et à Matadi, dans le Congo central, même si cet événement entraîne un arrêt de travail en guise de célébration, certaines activités, surtout chez des privés, ont elles continué normalement et pour ces privés, c'est en travaillant que cette journée internationale du travail trouve vraiment toute son importance. Élise Kavira a sillonné alors la ville de Matadi en ce jour férié et voici donc son reportage.
La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on. Cet adage est pleinement incarné par les jeunes de Matadi tous les jours. Actifs dans différents secteurs, ils ne laissent passer aucune occasion de se faire un peu de cash dignement à travers différentes activités. C'est le cas ici de Claudel Lelongoma, jeune homme dans la trentaine, trouvé sur son lieu de travail où il fabrique des blocs de ciment.
J'ai fait la maçonnerie, mais tout travail qui se présente, je le fais, même au port. Je vais parfois travailler comme journalier. Si on ne fait rien, comment on va survivre? Il faut travailler. Le pain qu'on va gagner va toujours nous aider.
Célébrer la fête du travail, c'est aussi se tourner vers les anciens travailleurs. À l'exemple de Ntumba Martin, cet homme de 73 ans, aujourd'hui retraité. Malgré son âge avancé, il ne croise cependant pas les bras.
Pour lui, la jeunesse congolaise ne doit pas passer son temps à se plaindre du manque d'emploi dans le pays, mais s'activer pour devenir elle-même créatrice d'emplois.
C'est vrai, il y a le chômage. Moi, dans ma parcelle, je plante 6 à 7 variétés comme ça. Et pendant l'année, les saisons de pluie, moi, mon épouse ne part pas au marché. Hein. C'est derrière ma parcelle.
Selon cet amoureux de la terre, l'État congolais devrait intensifier la sensibilisation auprès des jeunes sur l'agriculture pour réduire le taux de chômage. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Vous l'avez entendu en titre, le chef de la MONUSCO reçu hier par le président de l'Assemblée nationale Aimé Bogi au palais du peuple à Kinshasa. Au cœur de leurs échanges, des questions de paix, de sécurité et de stabilisation en République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a salué un échange constructif tout en insistant sur le rôle clé du Parlement dans les efforts de cohésion nationale. On écoute James Swan dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Nous avons échangé sur le rôle central que joue cette institution dans l'accompagnement des efforts de paix, de cohésion nationale et de stabilisation en République démocratique du Congo. Nous avons aussi évoqué l'importance de l'engagement collectif de toutes les institutions pour rapprocher les efforts diplomatiques des réalités vécues par les populations sur le terrain. J'ai réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat conformément aux résolutions 2773 et 2808 adoptées en 2025. La protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la réforme du secteur de la sécurité et la stabilisation, et bien sûr l'appui au processus de paix sont au cœur de l'action de la MONUSCO. J'ai également souligné que le renforcement de la confiance et le rétablissement progressif de l'autorité de l'État restent des priorités de la MONUSCO.
Joseph Kabila sanctionné par les États-Unis, le gouvernement de la RDC salue les sanctions américaines visant l'ancien président de la République. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa estime que ces mesures constituent un pas important dans la lutte contre l'impunité et la déstabilisation du pays, notamment dans sa partie est. Le gouvernement congolais appelle également à des sanctions similaires contre tous les acteurs impliqués, grâce à Mzati à nouveau.
Dans son communiqué, le gouvernement congolais confirme que ces sanctions ont été prises par les États-Unis à l'encontre de Joseph Kabila, accusé d'implication dans l'agression contre la RDC menée par les forces rwandaises et leurs alliés du M23 AFC. Pour Kinshasa, cette décision renforce la lutte contre l'impunité et vise à limiter les capacités de financement et de soutien logistique des réseaux impliqués dans le conflit. Le gouvernement rappelle par ailleurs que la justice congolaise s'est déjà prononcée sur ces dossiers,
évoquant des faits graves, du Sud,
notamment des trahisons, de participation à un mouvement insurrectionnel et des crimes de guerre. Dans ce contexte, les autorités dénoncent la poursuite des violences dans l'est du pays, marquées par des pertes en vies humaines, des déplacements des populations et des graves violations des droits humains. Kinshasa exprime également sa reconnaissance aux États-Unis et encourage l'adoption des sanctions similaires contre tous les acteurs impliqués dans l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Enfin, le gouvernement insiste sur la nécessité du retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais et réaffirme son engagement à poursuivre les efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la restauration de l'autorité de l'État.
Le gouvernement sud-africain a fermement condamné la nouvelle vague d'attaques et de menaces visant des ressortissants étrangers et il ne tolère aucun acte de violence. Les forces de l'ordre sont mobilisées en permanence contre les auteurs d'actes criminels. Propos tenus hier à Lubumbashi par la chargée d'affaires d'Afrique du Sud. C'était à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de la démocratie en Afrique du Sud, Freedom Day organisé par le consulat général d'Afrique du Sud à Lubumbashi. On écoute Salomé Masuku, chargée d'affaires d'Afrique du Sud à Lubumbashi, au micro de Paulin Munanga.
Permettez-moi de citer notre président, M. Cyril Ramaphosa, lors de son discours prononcé le 27 avril 2026 à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Je cite, « Chers Sud-Africains, nous n'avons pas accédé seuls à la liberté. Nous avons été portés par une vague de solidarité venue des nations africaines, entre autres. Nous ne devons jamais permettre que les préoccupations légitimes de nos communautés concernant l'immigration clandestine engendrent des préjugés envers nos compatriotes africains. Nous ne devons pas permettre que ces préoccupations donnent lieu à de la xénophobie dirigée contre les personnes originaires d'autres pays africains ou d'autres régions du monde. Je tiens à souligner que notre gouvernement ne tolère aucun acte de violence, quelle qu'en soit l'origine. Les forces de l'ordre sont mobilisées en permanence pour intervenir rapidement contre les auteurs d'actes criminels. Par ailleurs, notre ministre des Relations internationales et de coopération, M. Ronald Lamola, a fermement condamné la nouvelle vague d'attaques et de menaces visant des ressortissants étrangers, les qualifiant de menaces à l'ordre constitutionnel du pays et exigeant une intervention policière.
Au chapitre santé dans la province du Nord Kivu, la menace du Mpox reste préoccupante. Le médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination signale que certaines zones de santé continuent de notifier de nouveaux cas de cette maladie. Selon le docteur Stéphane Hans Batei, la zone de santé de Karisimbia Goma demeure l'épicentre de l'épidémie en province. Il invite également la population à une vigilance accrue et à signaler rapidement tout cas suspect pour permettre la vaccination des contacts. Stéphane Hans Batei au micro de Rosalie Zawadi.
Nous restons avec quatre zones de santé, donc la zone santé de Goma, la zone santé de Karisimbi, la zone santé de Nyiragongo. Bien sûr, il y a la zone de Katoi aussi qui notifie de temps en temps, mais la zone de Beni également qui a notifié aussi un cas. Et la zone de Karisimbi reste l'épicentre, c'est-à-dire c'est là où nous avons plusieurs cas de Mpox. L'automédication est contre-indiquée. Ça a des conséquences sur beaucoup d'organes nobles, notamment vous prenez des produits qui peuvent aller altérer vos reins, vous prenez des produits qui peuvent déranger votre foie, ainsi de suite. Donc la population d'abord doit nous aider à s'approprier, mais aussi sensibiliser les autres quand il y a eu un cas. Et il faut l'amener au centre de traitement. Mais aussi, la population doit respecter les mesures barrières au cas où il y a un cas de Mpox. C'est une maladie très contagieuse, donc il faut respecter d'abord la distanciation, le lavage de mains, et dans la mesure du possible, éviter de fréquenter des endroits en connaissant qu'on est malade.
À Nitouri, une clinique mobile installée par l'ONG MEDER est opérationnelle depuis quelques mois au site des déplacés de Djaïba pour la prise en charge des femmes enceintes. Cette initiative vise à soulager ces femmes qui auparavant parcouraient plus de 5 km, augmentant ainsi les risques de mortalité maternelle et infantile. Selon la présidente du site, certaines femmes accouchaient même en dehors de l'hôpital faute de moyens pour se rendre à l'hôpital de référence de Fataki, Isaac Raymond.
Environ une centaine de femmes enceintes d'ici des déplacés de Djaïba, qui comptent près de 15 000 personnes, bénéficient déjà des services de cette clinique mobile. Elles y reçoivent des consultations prénatales jusqu'à l'accouchement. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui étaient souvent contraintes d'accoucher dans des abris de fortune, faute de moyens de transport pour rejoindre l'hôpital de Fataki, situé à plus de 5 km. À cela s'ajoute l'insécurité liée aux opérations militaires contre la milice CRP dans la zone. Selon la présidente du site, plusieurs femmes vivent dans une grande précarité, certaines sans vêtements appropriés qui les empêchaient même de se rendre dans les structures de santé. Cette clinique permet ainsi de rapprocher les soins des populations vulnérables. Antoinette Dejo.
On a installé une clinique mobile pour les femmes enceintes et sont nombreuses. L'hôpital est très éloigné et il est difficile d'y accéder, notamment à cause de la présence des militaires sur la route. Même prendre une moto-taxi pour transformer une patiente comporte des risques.
Malgré cette avancée, les besoins restent importants, notamment pour la prise en charge des enfants et des adultes. Le comité des déplacés de Djaïba appelle le gouvernement et les partenaires humanitaires à renforcer l'assistance afin de sauver des milliers de vies en détresse. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, les femmes des différentes couches ont été sensibilisées sur l'importance des consultations prénatales. Cette campagne était menée par la Société congolaise de la pratique sage-femme en collaboration avec la division provinciale du genre famille et enfants. Selon la présidente de cette structure, des données statistiques du programme de santé de la reproduction révèlent que de janvier à avril, plus de 150 cas de décès maternels infantiles ont été enregistrés. L'objectif est d'éviter que la femme ne meure en donnant naissance. Florence Kiza.
D'après la présidente des sages-femmes, Annika Moignan, ces décès sont causés notamment par l'ignorance de certaines pratiques et la négligence. Voilà pourquoi il faut éveiller la conscience des femmes.
Par rapport aux statistiques que nous avons eues du janvier jusqu'à avril ici et au-delà, même de 150 décès maternels. C'est inconcevable. Nous, les sages-femmes, devons faire tout pour baisser sensiblement les taux de décès maternels infantiles.
Au cours de cette sensibilisation, les femmes ont été encouragées à suivre les consultations prénatales, car c'est pendant cette période que les femmes apprennent les signes de danger qui pourraient mettre à mal leur grossesse. Cette sensibilisation a été saluée par les bénéficiaires, à l'instar de Honorine Kitoko.
Comme on nous a montré les signes de danger pendant la période de la grossesse, nous aussi on aura aussi la chance de pratiquer ça et de suivre les calendriers.
De son côté, les coordonnateurs de l'ONG Lisetulia, une organisation qui encadre les femmes, s'engage également à répercuter les mêmes messages auprès de ses membres. Révérend Ngumbi Masoudi.
Après avoir participé, moi aussi je suis appelé de sensibiliser dans cette grande organisation féminine d'où je prends la responsabilité.
Cette série de sensibilisations continue dans le marché, les écoles et les églises. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
L'ONG Dynamique Action pour la défense des droits des femmes, filles et enfants a lancé depuis mercredi au Kasaï Central une enquête en ligne sur la perception de l'avortement sécurisé. L'objectif de cette enquête est de mieux comprendre les réalités locales afin d'améliorer les actions en faveur de la santé et des droits des femmes et des filles. Selon la coordinatrice, la question de l'avortement sécurisé demeure complexe dans la province. Le point avec André Katende.
Sont concernés par cette enquête les jeunes filles et femmes âgées de 15 ans ou plus, le jeune garçon ou homme de 18 ans ou plus, les leaders d'opinion ainsi que le prestataire de service. D'après Adrienne Mbombecha, coordonnatrice de l'ONG Tadefe, il s'agit de recueillir les avis de la communauté sur la question de l'avortement sécurisé dans la province en vue de renforcer les activités de sensibilisation et de plaidoyer.
L'avortement sécurisé, c'est l'avortement qui est assisté par les spécialistes terroriste qui est contraire à l'avortement clandestin. L'avortement, bien sûr, est interdit, mais le protocole de Maputo permet l'avortement sécurisé dans des cas spécifiques. Par exemple, le cas de viol, le cas où la santé de la mère est en danger, l'état d'inceste.
Ces sondages se déroulent en ligne à travers un questionnaire grâce à des outils de collecte des données. Il se poursuit jusqu'au 5 mai. Kananga, André Katendegnala Moulumé, Radio Kapi.
Province du Nord Kivu encore à Beni. La flambée du prix du carburant suscite la colère des motards et aujourd'hui ils ont investi les principales artères de la ville pour dénoncer une situation qui les juge intenable. En cause, le litre d'essence qui atteint désormais 10 000 francs congolais avec des répercussions directes sur leurs activités et conditions de vie. L'introduction de plusieurs nouvelles taxes serait à la base de ce malaise. Marc Marot.
Ils étaient près d'une centaine de motards à descendre dans les rues de Beni ce vendredi matin pour exprimer leur mécontentement face à la flambée du prix du carburant. Le litre se vend actuellement à 10 000 francs congolais. Une situation qu'ils disent ne pas comprendre et qui affecte fortement leur travail ainsi que la prise en charge de leur famille. Bienvenue Mumbere Mwinga, l'un des motards manifestants lance un appel aux autorités. Nous sommes dans les rues car le prix du carburant est à la hausse. Nous avons du mal à travailler car le carburant coûte trop cher. Nous achetons le litre à 10 000 francs congolais. Or par jour, on peut utiliser 3 litres. Cela ne nous permet pas de répondre aux besoins de nos ménages. Nous demandons à notre gouvernement de ramener le prix à la normale, soit 1 dollar le litre. Cela va nous aider dans notre travail. Par ailleurs, plusieurs stations-service ainsi que les revendeurs informels, communément appelés Kadhafi, n'étaient pas approvisionnés ce vendredi matin. Jusqu'à présent, aucune autorité n'a réagi à cette situation. Selon l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane de Beni, une soixantaine de camions citernes de produits pétroliers sont actuellement bloqués à Kassindi-Lubiria, principal poste d'entrée des marchandises vers l'axe Beni-Butembo. Beni, Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC donc, en Ouganda, Amnesty International a publié hier une recherche accablante sur les violences post-électorales qui ont suivi la réélection du président Yoweri Museveni pour un 7e mandat consécutif. L'ONG dénonce une répression visant en particulier les partisans de l'opposition dans un contexte de forte restriction de l'information. Des violences certes moins visibles que dans d'autres pays de la région, mais que l'organisation juge bien réelle et préoccupante.
L'invité.
Réduire l'emprise agricole pour freiner la déforestation, c'est possible et c'est ce que vient de démontrer le champ école paysan dénommé Kutaka Nikuweza, entendez par là vouloir ses pouvoirs à Yanongé en récoltant une tonne de bananes sur seulement 900 mètres carrés d'espace à Yanongé. Hubert Mulumba, expert du Centre de Recherche Forestière Internationale et Centre Mondial d'Agroforesterie, explique la viabilité technique et économique de ce modèle. Il est au micro de Jacques Mukonkole.
Hubert Mulumba, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Vous avez accompagné ces agriculteurs au sein du champ école paysan, CEP, quels sentiments vous animent en voyant cette récolte aujourd'hui?
Ces moments de récolte, c'est un moment pour moi d'une grande joie, vu les résultats réalisés par les membres du CEP Kutaka Nikuweza, qui étaient habitués à détruire la forêt pour faire la culture des bananiers, car c'est une culture qui est trop exigeante en matière de fertilité des sols. Mais aujourd'hui, vous les voyez vous-même, sur une jachère, ces mêmes membres, avec l'appui des Sifor Ikraf, parviennent à récolter 98 régimes pour un total de 1196 kilos. Et cela sur une superficie de 900 mètres carrés.
Concrètement, quelle est la principale valeur ajoutée du Sifor Ikraf pour les paysans de Yanongé à travers ce programme?
Sifor Ikraf a apporté aux jeunes et femmes ainsi qu'à tous les agriculteurs de Yanongé les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Pour ce qui concerne la culture des bananiers, il est conseillé de faire un bon choix de terrain. Réaliser les trous de grandes dimensions avant de planter. 90 cm de côté et la profondeur de 60 cm. Faire l'étonnage en laissant que 3 pieds sur une touffe, la plante mère, la plante sœur et les bébés. pratiquer l'effeuillage, ce qui va permettre l'aération dans la plantation. Veiller à une bonne fertilité du sol par les systèmes agroforestiers, associer les cafés aux bananiers, penser à une légumineuse qui est une plante de couverture, penser à la production des composts solides ou les composts liquides, tout ça pour renforcer la fertilité des sols.
Hubert, derrière ce succès, quel a été le plus grand défi à relever sur le terrain?
Ces agriculteurs étaient très attachés à leurs pratiques traditionnelles. Ils plantaient les bananiers dans des petits trous, ils gardaient beaucoup de pieds dans une même touffe et ne coupaient pas des vieilles feuilles. Alors, quand nous les avons organisés au niveau des champs écoles paysans, nous avons commencé par accompagner les membres de CECEP Kutaka Nikweza à identifier une culture principale et puis identifier une ou des difficultés liées à cette culture auxquelles ils veulent trouver des solutions. Et pour eux, ils ont choisi la culture des bananiers pour comparer leur façon de faire aux bonnes pratiques agricoles, notamment les feuillages et les tonnages dans un champ expérimental. Par exemple, dans des parcelles qui ont appliqué les pratiques durables, ces régimes ont beaucoup de poids comparativement à ceux qui viennent des parcelles aux pratiques habituelles. Il y a aussi la vigueur des bananiers même, voyez, pratique paysanne. On ne fait pas les tonnages, il y a beaucoup de pieds sur une même touffe, il y a la compétition, ce n'est pas aéré. Et par contre, là où on pratique les tonnages, il y a l'aération et aussi il n'y a que 3 pieds par touffe. La compétition est réduite.
Cette récolte est une étape. Quelle est la suite prévue pour consolider ces acquis?
Transformer le banane planté en divers produits, comme la production des farines des bananes par exemple. Car cette récolte n'est que le débit.
Dernière question, Hubert, la banane est périssable. Comment comptez-vous résoudre le défi de l'évacuation vers les centres de consommation pour éviter les pertes?
Il est toujours conseillé d'identifier les marchés d'écoulement avant de récolter. Ils ont identifié quelques marchés probants et parmi ces marchés probants, le marché local de Yanongé a été retenu pour l'écoulement de leurs produits et tous leurs produits seront écoulés localement car la demande est forte au niveau local.
Hubert Murumba, merci.
Merci.